à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien Transistor. Il est 20h passé de 31 minutes et vous êtes à l'écoute du journal radiophonique amplifié pour ce jeudi 14 février 2019 et toute l'équipe est là autour de moi, bien autour de moi parce qu'on n'a pas forcément assez de micros, toujours à pied d'œuvre pour vous retransmettre l'actualité mixée, égalisée, montée et évidemment amplifiée. À mes côtés c'est également Mathilde, bonsoir Mathilde.
Bonsoir Rémi.
Et qu'est-ce qu'on a au programme ce soir ?
Au programme, on a des brèves nationales et internationales avec des affaires LOL, Benalla, la Syrie, Haïti, mais aussi une revue de presse de Marie, un billet d'ici de Maé sur la crise méditerranéenne, un journal de la culture et une onde courte de toi, bien sûr Rémi, la chronique musicienne et le chemin de l'école avec Arthur.
Mais tout de suite, on passe donc au journal et le journal, ça sera avec toi Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors commençons avec l'international et partons maintenant pour Haïti où ils sont encore des milliers à manifester contre la vie chère et la corruption et à réclamer la démission du président Jovenel Moïse. 78 détenus évadés de la prison d'Aquin, une ville du sud de l'île, des affrontements avec les forces de l'ordre et des échanges de tirs à Port-au-Prince, des voitures incendiées et des magasins pillés, la situation est encore loin de s'apaiser et les violences ont déjà fait 6 morts. Une colère que la Cour supérieure des comptes estime justifiée. Un rapport publié en décembre dernier a en effet dévoilé une gestion catastrophique des fonds prêtés depuis 2018 par le Venezuela et une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires ont été épinglés pour corruption, une réalité difficile à accepter pour l'île la plus pauvre des Caraïbes dans laquelle 60% de la population vit avec moins de 2$ par jour.
Et maintenant, on va parler de la Syrie, avec les forces arabo-kurdes qui luttent contre l'État islamique. Dans l'est de la Syrie, où les derniers combattants de l'État islamique font de la résistance, il reste quelques centaines d'hommes qui demeurent retranchés dans la ville de Baghouz et qui ralentissent la progression des forces arabo-kurdes. Celles-ci sont persuadées de leur victoire dans les prochains jours et la célébration est déjà en cours de préparation. Il reste pourtant encore à affronter les mines, les kamikazes et les voitures piégées, qui empêchent pour l'instant la défaite totale de l'État islamique. La victoire sera d'autant plus délicate qu'il y a plus de civils dans la ville que ce qui était initialement estimé. Entre 1300 et 2000 personnes se sont déjà livrées aux forces arabo-kurdes.
Un point ensuite sur la situation en Amérique. En début de semaine, et après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, a été conclu entre républicains et démocrates un accord budgétaire prévoyant 1,3 milliard de dollars pour la construction, entre autres, de 90 km de nouvelles barrières à la frontière avec le Mexique. Une somme encore très loin des exigences de Trump, qui réclamait près de 6 milliards de dollars, et qui, s'il s'est dit très mécontent, a assuré continuer de se battre pour, je cite, « construire un beau mur, grand et solide ». En plus de la question du mur, ce sont aussi les élections de 2020 qui se profilent. Alors que Bernie Sanders, le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg et l'ancien vice-président d'Obama Joe Biden sont présentés pour être candidats à l'élection présidentielle de 2020, c'est la démocrate Elizabeth Warren qui a hier officialisé sa candidature aux primaires démocrates. Cette ancienne prof de droit à Harvard, surnommée Pocahontas par Trump et accusée de mettre en avant ses origines amérindiennes à des fins électorales, dénonce, je cite, « l'étranglement de la classe moyenne et fait du salaire minimum, de l'éducation et de la santé des points clés de sa campagne ». Une candidature qui provoque néanmoins remous et réactions nombreuses dans la presse américaine.
On parle de sous-marins à présent.
Et oui, pour finir, il a été signé mardi et est l'un des plus gros contrats jamais alloués par le gouvernement australien. Il s'agit d'un partenariat stratégique entre Canberra et la société française Naval Group qui prévoit la construction de 12 sous-marins pour 30 milliards d'euros. Salué par la ministre de la Défense Florence Parly, ce que les médias appellent le « contrat du siècle » devrait permettre à l'Australie de protéger ses intérêts dans la région Indo-Pacifique, théâtre d'affrontements à l'intensité croissante entre Chine, États-Unis et puissances régionales. Si la France a un temps traîné des pieds, en raison de la question des transferts de technologie, et que l'Australie craint que la marine ne soit en rupture capacitaire, le temps que les nouveaux sous-marins soient opérationnels, c'est-à-dire en 2038, le contrat scelle pour le Premier ministre australien un partenariat stratégique et devra occuper 500 personnes en France et créer en Australie plus de 2000 emplois.
Et on part maintenant pour Haïti ? Non, on part pas pour Haïti. Bon, alors on va parler de l'affaire Benalla.
On retourne à notre beau pays de France où un nouvel épisode du feuilleton agite l'univers du président de la République. En effet, Alexandre Benalla, mis en examen pour violence en bande et pour avoir utilisé un matériel policier contre l'autorisation du préfet, est passé bien sûr devant le Sénat et tout le tintouin. Mais il y a des nouvelles révélations par Mediapart. Certes, il était soutenu par le président devant le Sénat, mais on voit aussi que le personnage est très arrogant, utilise des procédés mafieux pour s'enrichir sur le dos du président. Mais Mediapart a encore révélé cette semaine que les contrats russes qu'il a passés sont au nom de la République française, et il a ainsi traité avec des oligarques russes, aussi bien pour enrichissement personnel que pour des affaires présidentielles. On a alors mensonge au Sénat, il a rompu la loi, on a des accusations de corruption, et maintenant on a quasiment une affaire d'État, puisqu'on voit l'apparition de manière mafieuse pour pouvoir traiter des contrats avec à l'Élysée.
Et maintenant, une trace de vie du côté du Conseil constitutionnel, Mathilde.
Et oui, hier ont été nommés les trois remplaçants de Lionel Jospin, Michel Carras et Jean-Jacques Hyest au Conseil constitutionnel. Les heureux élus sont l'ancien ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, choisi par Emmanuel Macron, François Pillet des Républicains, choisi par Gérard Lachey, et surtout Alain Juppé, choisi par Richard Ferrand. Alain Juppé qui, on le rappelle, était le mentor d'Édouard Philippe. Le gouvernement assure donc ses arrières en nommant des personnes qui lui sont proches et réduit ainsi le risque de censure qui pèserait sur ses lois. Le Conseil constitutionnel est censé être indépendant des pouvoirs publics puisqu'il a pour mission de s'assurer de la conformité de la loi avec la Constitution. Mais Emmanuel Macron semble bien décidé à ne pas s'encombrer de ce poids. On parle de l'affaire LOL maintenant, Maë.
Facebook, 2000 en quelques clics et crée une page, la Ligue du LOL. Vincent Glade, journaliste, y invite ses amis, la plupart issus de nombreuses rédactions parisiennes, du Monde, de la publicité ou de la communication. Le fait semble banal, si ce n'est que la page s'applique peu à peu à cyberharceler des personnes et principalement les collègues femmes de ces journalistes. Le harcèlement est insidieux, l'affaire doit attendre février 2019 pour éclater, à l'origine Twitter et un commentaire incendiaire qui dénonce les agissements des membres de la Ligue du LOL. Suivent une série de témoignages, l'affaire est délicate cependant, en effet nombre des faits reprochés ne tombent pas sous le coup de la loi, le bad buzz est cependant suffisamment gros pour avoir abouti à la mise à pied de plusieurs journalistes de Libération, des Inrock ainsi que d'Uzbek Eric. Certains faits ont néanmoins été portés devant les tribunaux, affaire à suivre.
Et on parle réforme de la justice maintenant avec toi, Benoît.
Tout à fait. Le projet de loi de programmation de la justice 2018-2022 et de réforme pour la justice a suscité l'indignation de certaines associations féministes suite à son adoption en première lecture au Sénat cette semaine. En effet, la place accordée aux affaires de viol a conduit des activistes fémaines à manifester devant le Sénat, dénonçant un rétropédalage judiciaire. Alors qu'on observait déjà une correctionnalisation progressive des affaires de viol, cette nouvelle réforme prévoit en outre un passage devant un tribunal sans juré et bénéficiera seulement de quelques heures d'audience. Dans le même temps, les délais de saisie d'un juge d'instruction après dépôt de plainte passeraient de 6 à 3 mois, rendant très compliqué la constitution d'un dossier. On ne peut donc que s'indigner de cette mesure, faisant passer le viol pour un petit crime, voire un délit, et espérer que le monde associatif se saisisse au plus vite de cette affaire.
Merci, et on va finir avec des actes antisémites.
En effet, l'antisémitisme revient en France. C'est ce que disent les chiffres pour 2018. On voit une augmentation de 74% d'actes antisémites en France. Concrètement, on passe de 311 à 541 actes antisémites signalés à la police. Donc il pourrait y en avoir plus. Par exemple, on peut avoir la profanation d'un site en mémoire d'un jeune juif torturé en 2006, les croix gammées dans le 13e arrondissement de Paris sur le portrait de Simone Veil, ou de nombreux tags antisémites qui mettent en cause le président de la République traité de sale juif. Où on a par exemple les vitres d'un restaurant tagué de Juden et parfois brisé. Ce qui est alors à le relever, c'est que nous n'avons pas affaire au nouvel antisémitisme dont on nous promet la montée depuis 15 ans. La Palestine n'est mentionnée nulle part. Non, ce sont les vieux codes antisémites d'extrême droite. Nous pouvons dire que nous sommes en face des pires résurgences de la République française.
Eh bien ça, c'est une bonne façon de terminer un journal sur une note toujours joyeuse, mais effectivement... La situation est préoccupante et nous serons là coûte que coûte pour la porter dans vos oreilles sur Transistor. Et en parlant de situation préoccupante, on se tourne vers toi, Maë. À 20h40, tu reviens sur la crise méditerranéenne qui n'en finit toujours pas, malgré le silence dans lequel elle se trouve plongée depuis quelques mois. C'est parti pour ton billet d'ici.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Les fascistes et réactionnaires.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
On en parle régulièrement dans les journaux, à la télévision. Parfois, le sujet fait le buzz et d'autres fois, c'est le calme plat. Pourtant, le désastre est toujours là, sous nos yeux, dans la mer Méditerranée. Des personnes meurent en tentant de rejoindre l'Europe. Je ne vous apprends rien, on en a pris l'habitude. Et on commence à prendre l'habitude aussi des barrières administratives et juridiques qui entravent les diverses ONG qui tentent de sauver toutes ces vies perdues en mer. La situation est telle qu'aujourd'hui, plus un seul bateau n'est capable de porter secours aux naufragés. L'Aquarius est inutilisable depuis fin 2018, le Sea-Watch est retenu à Catane depuis fin janvier, après avoir tourné en mer pendant 13 jours. L'Open Arms n'a à ce jour pas l'autorisation de quitter le port de Barcelone, sans compter les bateaux coincés administrativement à Saint-Sébastien ou à Malte. Pendant ce temps, on compte tranquillement les morts au large des côtes libyennes, 130, 140 officiels, sans parler de ceux que l'on ne retrouvera jamais. Aglaé, bénévole référente de la branche lyonnaise de SOS Méditerranée, est revenue pour nous sur les différentes entraves que subissent les différentes ONG.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois des entraves pour soutenir les bateaux qui font des opérations de recherche et de sauvetage au niveau de l'Europe, hein, essentiellement, et effectivement empêcher en fait faciliter les procédures de débarquement rapide pour les bateaux qui auraient repêché en fait des naufragés. Donc c'est vrai que c'est à la fois une entrave de moyens, de pression à la fois administrative et juridique, puisque notamment l'Aquarius a eu quand même pas mal de pression juridique pour l'empêcher de repartir en mer. Et là, pareil pour le navire Sea-Watch, le fait qu'il ait dû attendre 15 jours en mer, enfin sur une mer en plus qui était un peu démontée de faute de pouvoir débarquer. L'Italie refusait que le bateau débarque dans ses ports. C'est vrai que les pays européens sont vraiment dans un refus en fait de faire débarquer les naufragés dans leur pays, puisque du coup il y a le aujourd'hui ce qui prévaut c'est le règlement de Dublin qui confie en fait le traitement de la demande d'asile des personnes qui arriveraient dans le pays au pays où les personnes sont entrées en Europe. Et du coup les pays d'accueil refusent en fait de voir débarquer sur leur port des migrants pour éviter d'avoir des demandes d'asile en nombre en fait. Donc l'Europe est un peu dans l'impasse en fait depuis ce règlement de Dublin. C'est ce qui crée finalement une situation d'urgence en mer Méditerranée, puisque dans le même temps les personnes continuent de venir, d'essayer de traverser. Et depuis janvier 2018, il y a un certain nombre plus de 2500 personnes qui ont péri noyées en fait dans la mer. Donc les personnes continuent de vouloir traverser, mais les pays européens mettent des vrais freins, à la fois aux opérations de recherche et de débarquement.
La politique européenne se défile sans cesse devant cette crise humanitaire, en démontre la réforme du droit d'asile de l'UE qui s'enlise depuis 2 ans, réforme qui se trouvera être sans doute un des enjeux majeurs des élections européennes de mai.
Alors du coup, l'association SOS Méditerranée avec d'autres organisations humanitaires comme Emmaüs, Oxfam ou Amnesty International, ou Médecins Sans Frontières, l'idée, on a écrit en fait une lettre ouverte à la fois à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et Nicole Belloubet, qui est ministre de la Justice, qui était adressée aussi, qui était une lettre ouverte à tous les ministres européens pour demander que les pays adoptent des procédures en fait européenne de débarquement rapide et prévisible, puisque l'objet de l'association SOS Méditerranée, c'est de sauver des vies en mer et c'est de protéger les rescapés. Et du coup, cette lettre ouverte demandait effectivement que l'Europe puisse soutenir les opérations de recherche et de sauvetage et autoriser en fait les navires à accoster dans leur port notamment. Et dans l'idée de faire évoluer, on va dire, les mesures ou les lois européennes, c'est aussi faire en sorte que l'Europe adopte des procédures de débarquement rapide en fait, et que les pays puissent rapidement autoriser des bateaux à accoster. Le système de Dublin est effectivement dans l'impasse en fait, et du coup ce qui produit des situations humanitaires catastrophiques. Et autre chose du coup qui pourrait évoluer au niveau européen, c'est le fait que les bateaux et les migrants, les naufragés ne soient plus renvoyés en fait vers la Libye, puisqu'aujourd'hui c'est la Libye et le pays soutenu par l'Union européenne comme pays qui va coordonner les opérations de sauvetage en mer du Méditerranée. Mais voilà, on sait bien que la Libye, c'est un pays qui est déchiré par la guerre et que quand les naufragés, les réfugiés sont renvoyés en Libye, ils vont être détenus dans des conditions vraiment terribles, en violation de tous les droits humains. Et donc, c'est une situation qui est pas possible en fait de renvoyer ces naufragés en Libye. Donc c'est les trois choses, c'est vraiment soutenir les opérations de sauvetage, faire en sorte que les navires puissent débarquer rapidement et puis mettre fin au renvoi vers la Libye. C'était l'objet de la lettre ouverte qui a été écrite et diffusée fin janvier 2019.
Mais comme nous le rappelle également Aglaé, la mission d'une ONG comme SOS Méditerranée n'est pas seulement de sauver des vies, mais également de témoigner de ce qui se passe au large des côtes. L'Aquarius, en 3 ans de service, aura ainsi accueilli plus de 170 journalistes, des journalistes devenus témoins gênants de cette crise humanitaire.
Bah, c'est vrai que on parle dans cet article-là de témoins gênants, puisque les journalistes témoignent d'une situation humanitaire qui est pas tenable, de catastrophes au quotidien en fait en mer, et donc effectivement ces journalistes-là mettent en mots, en images, ce qui se passe dans la mer Méditerranée, donc à la fois les opérations de sauvetage, mais aussi régulièrement la mort des personnes qui se noient en mer. C'est vrai que les personnes qui travaillent sur les bateaux, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, infirmiers, parlent avec leurs mots de au quotidien de ces moments terribles en fait. Effectivement, c'est gênant puisque c'est la réalité en fait, c'est la réalité de des actions des bateaux de sauvetage.
Les pays européens ne se contentent pas ainsi de ne rien faire pour venir en aide aux personnes naufragées, mais empêchent également d'agir ceux qui tentent de les secourir et essaient d'éviter qu'on en parle trop.
Merci beaucoup Maë pour cet entretien et pour ce retour sur une situation préoccupante. Donc,
vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Du coup, quand même, je tenais à remercier Aglaé, de responsable du coup de la bénévole dans la branche lyonnaise d'SOS Méditerranée, pour avoir répondu à mes questions. Et elle vous fait savoir que si vous voulez vous engager auprès d'SOS Méditerranée, du coup, la branche lyonnaise a besoin de main d'œuvre.
Le message est entendu. Et maintenant, Mathilde.
Maintenant, on passe à la revue de presse avec Marie.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et Marie, on la commence avec...
Alors, puisque c'est la Saint-Valentin, on aurait aimé commencer cette revue de presse avec un peu d'amour. Mais ce que la presse constate aujourd'hui, c'est plutôt la haine. 74%. C'est le chiffre qui s'étale sur la une de Libération aujourd'hui, et on vous en a parlé tout à l'heure. En France, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Des chiffres qui claquent pour l'humanité, le reflet d'une réalité odieuse et abjecte pour le Figaro, mais le rôle du journaliste, c'est aussi de prendre du recul. Alors dans Le Monde, on analyse. Dominique Rénier en effet distingue trois antisémitismes, religieux, d'extrême gauche et d'extrême droite, qui prolifèrent dans un contexte d'obscurantisme et de théorie du complot, où les haines libérées par les crises convergent dangereusement. Dans Libé ensuite, on propose des solutions, éducation et répression sévère de l'antisémitisme en ligne par exemple, et dans l'Obs, on développe des théories pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement.
Des théories plutôt étonnantes à première vue, non ?
Oui, puisque est-ce que tu as entendu parler de la philosophie du bagel ? Eh bien, c'est ce que développe la rabbin Delphine Horvilleur. Le mouvement des Gilets jaunes a créé un espace politique, un trou, dans lequel s'engouffrent les acteurs antidémocratiques et antirépublicains. Alors certes, le bagel n'a pas le goût de son trou, mais doit être conscient de ce vide qui s'est créé en son centre. Vous me suivez ? Bref, une théorie éclairante qui prend un aspect terrifiant quand même quand Horvilleur rappelle qu'un tel déferlement de haine a souvent été le prélude de l'effondrement d'une nation.
Pas très réjouissant en effet, mais en parlant d'effondrement, je crois qu'il n'y a pas que la nation qui est concernée.
Et oui, puisque Le Monde titre en effet « L'invisible disparition des insectes » et nous apprend que 40% des espèces d'insectes sont en déclin et que leur extinction est 8 fois plus rapide que celle des mammifères, oiseaux ou reptiles. Et les pronostics ne sont pas bons. D'ici un siècle, il ne restera plus d'insectes sur la planète, les écosystèmes naturels s'effondreront et nos régimes alimentaires et la production de fruits ou légumes seraient directement affectés puisque les cultures pollinisées assurent un tiers de l'alimentation à l'échelle mondiale. Comment lutter alors ? Moins de pesticides et une agriculture plus responsable. Facile à dire, mais difficile à mettre en place. Difficile aussi de ne pas s'inquiéter des suites de l'affaire Huawei. Le point titre « Le retour des espions » et la une de l'Obs affiche Xi Jinping en maître du monde. Après l'arrestation de la directrice financière de l'entreprise, accusée par les États-Unis d'avoir usé de méthodes d'espionnage pour s'emparer des technologies américaines, l'Obs passe au crible une stratégie chinoise qui fait froid dans le dos. Objectif immédiat, supplanter la suprématie américaine dans le secteur hautement stratégique du high-tech et surtout de la 5G. Objectif à long terme, avoir un accès privilégié à tout ce que la 5G pourra connecter, ville, transport, banque, services et j'en passe. Moyen d'action, une stratégie digne des films d'espionnage. Avancer masqué et à petits pas, en imposant des collaborations forcées qui aboutissent à une dépendance dangereuse et s'appuyer sur le soutien des politiques comme David Cameron ou Dominique de Villepin qui détiennent d'importants fonds d'investissement chinois, le tout pour achever un objectif ambitieux, être, je cite, le centre politique et culturel du monde pour 2050, rien que ça. Et en parlant d'Internet et d'inquiétude, c'est le Figaro aujourd'hui qui dénonce la schizophrénie numérique. Oui, la société numérique serait une immense souricière de coercition, selon Sylvain Tesson, où nous serions tant prises à la dictature du cool. Et oui, il faut craindre un hold-up de l'attention, une hyper-sollicitation de l'ego, un déferlement narcissique, qui finissent par déconnecter l'homme de lui-même.
Déconnecter l'homme de lui-même, certes, mais aujourd'hui, on parle plutôt de la connexion avec l'âme sœur, non ?
En effet, connexion ou, dans certains cas, divorce. Washington, nous explique Libération, organise une conférence internationale à Varsovie, officiellement consacrée à la paix et la stabilité, mais dont le but réel, ça n'échappe à personne, est bien de tenter de contenir l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, une influence qui ne cesse de croître, le pays ayant bâti en Irak un vrai réseau d'influence et ayant vu sa position en Syrie renforcée après le retrait des troupes américaines. Divorce aussi en France, où l'humanité voit dans la démission du conseiller spécial de Macron, Ismaël Emelien, un abandon dangereux et la dislocation d'un clan. Libération, elle, s'intéresse à l'envers du décor et nous rappelle qu'Emelien aurait été impliqué dans l'affaire Benalla et qu'il aurait même participé à la campagne présidentielle de Nicolas Maduro. Bref, tout ça pour dire que le clan Macron nous cache encore bien des choses.
Le divorce donc, mais aussi des relations amoureuses compliquées.
Exact, depuis peu, le couple France-Italie ne va pas fort. L'Europe se querelle et l'Europe se craquelle, pour le plus grand bonheur des populistes, dénonce Marianne. Dans l'Obs d'aujourd'hui, Natacha Tatu fait le diagnostic d'une rupture entre deux frères dont elle cherche à déterminer les causes. La question migratoire, les actions de la France en Libye, ancienne colonie italienne, la rencontre des Gilets jaunes avec Luigi Di Maio et l'annulation de la ligne TGV Lyon-Turin. Bref, le tandem tangue, constate Tatu, mais ce qui pourrait faire penser à un acte de comédia d'alerte est en fait une lutte pour la popularité dans un contexte d'élection européenne, une lutte qui pourrait vite tourner au drame européen.
Ah, un drame, un amour brisé, c'est un peu shakespearien tout ça.
Alors oui, en effet, mais ce qui l'est moins, c'est l'article de Libération qui nous parle de l'amour à l'époque d'Internet et suggère que demain, les algorithmes pourront peut-être prévoir la durée d'une relation avant qu'elle ne commence ou déterminer la probabilité de succès d'un mariage. Et le journaliste d'évoquer le Hello Score, un système un peu effrayant. Vous avez une note selon votre physique, 5 par exemple au hasard, et vous ne pourrez que rencontrer des personnes qui ont la même note que vous. En bref, vous l'avez compris, il s'agit de caser les moches avec les moches et les beaux avec les beaux. La start-up américaine va plus loin encore en vous proposant un coach virtuel, qui vous pose des questions personnelles et analyse finement vos réponses pour pouvoir vous proposer le partenaire de rêve. Mais rassurez-vous, le journaliste nous le rappelle en guise de conclusion, l'amour restera toujours une alchimie subtile qui ne pourra jamais être modélisée parfaitement.
Décidément, tu es déterminée à nous parler d'amour.
Alors oui, fil conducteur tout trouvé, je te l'avoue. Et puis, comme le 14 février, certains passent leur soirée seuls, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à ceux dont on parle trop peu, qu'on veut chasser de l'espace public et qu'on oublie souvent. Le Parisien nous apprend que c'est justement ce que fait la Fondation Abbé Pierre, mais sans misérabilisme, plutôt avec humour et dérision, qui restent les meilleurs outils pour agir. La Fondation a en effet remis les premiers pics d'or au dispositif anti-SDF installé notamment à Paris, Biarritz ou Toulouse. En tout, ce sont 6 récompenses aux titres étonnants qui ont été décernées. Fallait oser du dispositif le plus décomplexé, pour les sièges microscopiques installés sous les abribus de Biarritz. Faites ce que j'y, pas ce que je fais. Ou dispositif le plus fourbe, pour une jardinière qui remplace les bancs où les SDF avaient l'habitude de dormir. Alors ça fait sourire certes, mais derrière l'attribution de ce prix incongru, des buts concrets. Dénoncer la criminalisation des SDF, continuer à développer le site collaboratif soyonshumains.fr qui a permis de répertorier quelques 300 équipements installés aux abords d'infrastructures publiques pour empêcher les SDF de s'installer. La Fondation a aussi profité de cette cérémonie inédite pour promouvoir plusieurs initiatives. Une charte de 14 droits pour les personnes sans-abri ou le réseau du Carillon, soit 800 commerçants dans toute la France qui permettent aux SDF d'accéder à des toilettes, de charger leur téléphone ou de prendre un repas payé par client.
Ah bah voilà, on y vient enfin, un peu d'amour.
Oui, la Croix aborde le sujet de manière, disons, poétique, en consacrant un dossier à la parole amoureuse. Il s'agirait, par les mots, de nidifier la vie à deux, de magnifier l'instant présent, c'est très beau, et de laisser place au silence. Dans l'Obs, on est plus pragmatique, et le psychologue Sylvain Mimoun écrit même ne pas croire à la fusion entre deux êtres, selon moi, dit-il, les clés du bonheur résident dans le fait de rester des êtres à part entière, afin de donner le maximum, explique-t-il. Au final, peu importe, ce qui compte, c'est que l'on trouve toujours, dans les lignes des articles, un fragment d'amour au milieu des histoires de géopolitique et de magouilles financières, et ça, ce n'est pas de refus.
Merci Marie.
Jusqu'à 21h,
le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et on passe à la notion pourrie d'Arthur qui va nous parler du grand débat.
En effet, ça faisait un moment que je voulais parler de cette blague. Si l'amour est affaire d'illusions et d'attentes, je crois que nous n'en nourrissions aucune à propos de ce grand débat qui était normalement la réponse à la crise des gilets jaunes. Si on prend la simple définition de débat, selon une logique politique, c'est la volonté de discuter d'un ou des sujets sociaux pour qualifier son usage ou sa place dans l'espace politique. Est-ce que cette fois l'élève Macron a réussi à cocher la bonne case ? Parce que les aspects de la discussion sont là, que ça soit le site ou que ça soit la volonté d'essayer d'aller dans les territoires les plus oubliés de la France. Mais... et vous savez que ce qui compte est toujours après le mais, ce n'est pas un moment politique qui se déroule sous nos yeux. En effet, même selon le grand pape du consensus, le symbole de international des modérés, Jürgen Habermas, nous ne sommes pas dans des conditions de débat. En effet, selon Habermas, seuls peuvent prétendre à la validité les normes susceptibles de rencontre de toutes les intéressées en tant que participants d'une discussion pratique. La traduction de ce langage incompréhensible, c'est qu'il faut être en fait d'accord avec tous les termes du débat. Or, si on observe les questionnaires, la formulation des questions, ou même le choix de parler 7 heures aux élus locaux, tous ces choix violent le simple concept même, puisque 1. Les gilets jaunes se méfient de la représentation comme de la peste, et deuxièmement, aucun des choix dans les questionnaires ou dans les thèmes choisis ne correspond aux critiques des Français. Ce qui pose 3 problèmes si on suit la logique d'Habermas. Premièrement, la discussion n'aura aucun effet pratique. Or, c'est le principe même de la discussion politique. Et la démocratie, c'est gérer l'incertain. C'est comprendre que des conceptions ne peuvent être hégémoniques et doivent toujours être discutées. Ici, la compétitivité semble être beaucoup plus importante que toutes les crises sociales que traverse la France. On est en fait dans du théologico-politique. Deuxièmement, le grand problème, c'est que si on suit le gouvernement, il faut nier son interlocuteur, aussi bien dans ses revendications précises, par le RIC ou le rétablissement de l'ISF par exemple, comme dans l'universel que sa parole porte. Et dans le discours des Gilets jaunes, c'est la volonté de justice sociale. Troisième grand problème, le grand débat n'est pas une discussion. Que ça soit par le choix des questionnaires comme pour son organisation, ce n'est qu'une gestion de la foule et de la parole par des limites posées. C'est une action de gouvernement, non de démocratie. Le grand débat pouvait vraiment être un moyen pour les modérés de revitaliser la démocratie. Mais actuellement, nous sommes en fait dans une discussion d'entreprise qui choisit de savoir si on doit installer le baby-foot ou non lorsqu'on prépare le projet.
Merci beaucoup Arthur pour cette petite mise au point sur le grand débat à 20h59, presque 21h sur Transistor. Alors vite, une dernière actu et on passe à la suite.
Tiens, voilà des Bouddhas, voilà des Bouddhas, voilà des Bouddhas.
Je me demande ce que penserait Jean-Michel Blanquer, le hibou de Bénissier qui officie actuellement aux commandes de l'instruction publique, si, comme moi, hier, il se rendait au lycée du Parc pour y prodiguer quelque enseignement et s'il y voyait, fier au fronton de la cour d'honneur du lycée de l'élite républicaine en devenir, rouge comme un maréchal prussien à l'heure du schnapps, la bannière étoilée d'or de la République populaire de Chine, symbole facile d'une toile de jouets en plastique et d'aéroport racheté, tendue sur l'Occident par une araignée aux milliards de pattes. Car il les aime et les connaît, les symboles faciles d'un 21e siècle qui sonnent encore comme la fin du 20e. Lui, l'apôtre moderne de la morale et des uniformes, dinosaure symptomatique dans un monde bleu, blanc, brun, où les lettres seraient réduites à l'alphabet, la géographie mangée par l'histoire et l'histoire par la géographie. Les humanités se restreindraient à l'employabilité et l'étoffe dont sont faits les symboles serait devenue un bête tissu aux couleurs vives qu'on agite dans l'arène politicienne où l'on veut nous faire parader sous les jets de banderilles de picadors en tenue anti-émeute, tissu d'inepties nationalistes qui mettent un peu de sel dans la soupe quotidienne dont il faudrait cacher le goût, tissu tissé jour après jour par l'aiguille nauséabonde d'une extrême droite en pleine forme et dont le macronisme entend être la tête d'épingle, fil tissé dès l'enfance, dès l'école, fil national enfilé dans les cerveaux comme dans autant de perles, pour un collier qui, vu d'ici, ne manquerait plus que d'une laisse. Alain, à toi.
Le JRA, une émission conçue comme son propre fondement sur Transistor en direct.
Il est 21h passées d'une minute, on ne comprend rien à ce qui se passe. Mais ce n'est pas grave, c'est l'heure de l'édito scientifique, voilà une certitude dans ce monde. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Rémi.
Bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Et bonsoir à toutes et à tous. Alors pour ce nouveau rendez-vous autour de la science, je vous propose de revenir sur un projet qui a beaucoup fait parler de lui l'an dernier, le projet Ocean Cleanup. Créé en 2011 par le génie néerlandais Boyan Slat, alors âgé de 16 ans, on me fait signe qu'il faut que j'aille beaucoup plus vite. L'objectif de cette fabuleuse entreprise, nettoyer nos océans des déchets plastiques, et oui, rien que cela. Alors dis-nous tout Maxime, en quoi consistait ce projet, et d'ailleurs comment comptait-il dépolluer les océans? Alors Rémi, le principe était des plus simples. Il s'agissait de récupérer les déchets plastiques créés grâce à un système de flotteurs et de jupes. Un ensemble de tuyaux reposant à la surface de l'océan, assemblé en un U de près de 600 mètres de long, afin de capturer et accumuler les plastiques flottants, ainsi qu'un réseau de filets fixés en dessous et descendant à 3 mètres de profondeur, devant récupérer les plastiques en suspension à la surface de l'eau sans représenter le moindre danger mortel pour les espèces marines. De façon régulière, enfin, un de ces énormes chalutiers devait venir extraire régulièrement le plastique ainsi récolté pour le ramener sur terre ferme et l'introduire dans une chaîne de recyclage. Ce qui était réellement novateur dans ce projet était l'aspect autonome et énergétiquement neutre de la structure. En effet, l'objectif était d'utiliser les gyres océaniques, c'est-à-dire les principaux tourbillons animés par les vents et les courants de surface, vortex géants imputables à la force de Coriolis, pour piéger le plastique de façon naturelle. Tous les besoins en énergie de la structure, enfin, étaient assumés par énergie solaire, un système propre et très prometteur, dont les modèles numériques prévoyaient une réduction de l'ordre de 50% du 7e continent, continent de plastique du Pacifique tristement célèbre, grand comme trois fois la France, réduction de 50% en seulement 5 ans, et la disparition de 90% du plastique des océans d'ici 2040. N'est-ce pas fabuleux?
Alors fabuleux effectivement, mais peut-être un poil trop ambitieux.
Tu ne crois pas si bien dire Rémi. La phase expérimentale a commencé en septembre dernier au large de San Francisco, tandis que nous prenions place sur les bancs de l'école. Je vous invite d'ailleurs au passage à consulter le blog officiel de The Ocean Cleanup, sur lequel Boyan Slat renseigne en temps réel la situation du système 001, sa maintenance, les questionnements soulevés, etc. Mais à peine 4 mois d'expérimentation se sont-ils écoulés que déjà une batterie de problèmes ont survenu, de l'ordre de ceux que vous ne prévoyez pas, bien entendu, et a mis à mal, ou que dis-je, a mis en péril ce Green Project qui devait sauver les dauphins et les tortues de mer. Ainsi avons-nous appris avec effroi, alors que les fêtes de fin d'année battaient leur plein, que le flotteur venait de se rompre, que c'était donc passé. une tempête était en cause pour, dans cette avarie, un obstacle de l'ordre de celui du Titanic avait-il été rencontré ? Bien, rien de cela. Il s'agissait simplement de l'usure naturelle du matériau utilisé pour la construction de ces flotteurs, un polymère à haute densité. Un matériau qui aurait résisté aux affres de l'océan 4 petits mois seulement, alors que nous attendions de lui qu'il tienne front des années durant. Voilà une piqûre de rappel bien douloureuse, nous signifiant le caractère de prototype de cette structure.
Alors, il ne s'agit que d'un problème d'ordre technique qui va peut-être retarder la phase expérimentale du projet. Mais du coup, il n'y a qu'à composer avec, n'est-ce pas ?
Alors malheureusement, Rémi, ce stade expérimental a mis en exergue de nombreux autres problèmes, bien au-delà de l'aspect composite du dispositif. Ainsi, la forme en fer à cheval de la construction ne serait pas suffisamment efficace pour retenir les plastiques accumulés qui auraient la fâcheuse tendance à s'échapper au cours de la dérive des flotteurs, malgré les tests maquettes et les simulations numériques réalisées au préalable. 2 tonnes de plastique auraient ainsi été récupérées en 4 semaines contre 1 tonne prévue à la semaine initialement. La faible vitesse de déplacement du système serait incriminée. Ajoutons également à cela, les incertitudes planant quant à l'efficacité du dispositif à dépolluer les océans des microplastiques, responsables numéro 1 de la pollution plastique et impactant fortement la biologie marine. Ce sont les critiques émises par David Schiffman, biologiste marin à l'université Simon Fraser au Canada et de certains de ses collègues spécialistes aux questions de pollution environnementale. Encore un revers douloureux, interrogeant même la nécessité du dispositif financé à hauteur de 30 millions d'euros par dons et financement participatif. Ce projet ne divise pas seulement la communauté scientifique, les associations de protection des océans aussi crient contre l'ingénierie. Le capitaine Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd, a ainsi déclaré que l'invention était un échec de conception dès le départ. Ainsi peut-on toujours dépenser des millions d'euros dans des projets, mais cela restera toujours moins efficace qu'un changement de mentalité. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser ces déchets attendre patiemment qu'ils se dégradent dans l'océan, n'est-ce pas ?
Et oui, le fond et la forme de ce grand projet qui sont donc questionnés et le bilan semble plutôt négatif.
Effectivement, heureusement l'équipe d'Ocean Cleanup, elle, reste positive et espère que le système sera fonctionnel en 2019. De tels revers sont inévitables lorsque l'on veut développer une technologie pionnière et la faire évoluer rapidement, selon Bojan Slat.
Merci beaucoup Maxime pour cet édito scientifique.
Il giornale radiofonico de l'amplificazione.
Sur Transistor.
Et on reste à peu près dans les mêmes thématiques, Mathilde, puisque c'est l'heure de ton billet écolo. Et on parle écologie et jeunesse aujourd'hui.
Oui, je sens qu'il y a cette question si importante qui te taraude, Rémi, et à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui.
Waouh !
La jeunesse a-t-elle vraiment les moyens de sauver la planète ? À travers le portrait de quelques militants et organisations, je vous propose ce soir un tableau des défenseurs et pourfendeurs de la planète.
Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas à nouveau de notre chère Greta Thunberg, par hasard ?
Eh bien si ! Quelle déduction ! Tu as tout à fait raison, parce qu'elle est devenue une des icônes d'une partie du mouvement écologiste actuel. On ne peut pas ne pas commencer par Greta Thunberg. Vous vous en rappelez peut-être, je vous avais mentionné dans un précédent billet, cette incroyable Suédoise de 16 ans qui s'est engagée dans une grève pour le climat. Après avoir généré un mouvement de la jeunesse et déclenché des grèves pour le climat dans le monde entier, Greta s'est rendue depuis à la COP24 en Pologne et au Forum de Davos pour essayer d'influencer milliardaires, PDG et politiques. En somme, elle s'est rendue là où se trouve le pouvoir dans notre société actuelle. Alors quelle influence a véritablement le combat de Greta Thunberg ? Que dire de son combat ? Selon Isabelle Attard, députée écologiste du Calvados et éco-anarchiste, cette lutte est une formidable source d'espoir, mais il ne faut pas être dupe des relations de force qui se jouent autour. Selon elle, ce combat est détourné au profit du capitalisme vert. Ingmar Rentzog, cofondateur de la start-up We Don't Have Time, est l'une des principales personnes à avoir propulsé Greta Thunberg sur le devant de la scène internationale. We Don't Have Time se veut un réseau social qui a pour but d'influencer les grands décideurs et décideuses de la planète, d'agir contre le réchauffement climatique. Sauf que le journaliste d'investigation suédois Andreas Henriksson a révélé que parmi les actionnaires de cette start-up, on trouvait 2 grandes familles spécialisées dans la finance, les Persson et les Rentzog. Ingmar Rentzog est quant à lui directeur du think tank Global Utmaning, qui collabore avec le groupe Global Shapers, une communauté de jeunes dirigeants, communauté qui est une pure création du Forum économique de 2011, visant à défendre une protection de la planète qui irait de pair avec croissance économique et toujours plus de mondialisation. Pour résumer, la position d'Isabelle Attard est que Greta Thunberg, sans le vouloir, a participé à mettre en lumière un groupe influent promouvant la croissance verte qui, on le sait, est tout sauf une solution pour la planète.
Et Greta Thunberg a-t-elle répondu d'ailleurs à de telles accusations ?
Oui, dans une longue note publiée sur sa page Facebook, et qui a été traduite puisque je ne me suis pas encore mise au suédois, Greta Thunberg défend son combat et son indépendance, arguant qu'elle ne représente qu'elle-même. Ces détracteurs l'accusent en effet d'être utilisée, manipulée, voire payée. Mais elle rappelle qu'il n'y a personne derrière elle, son combat c'est le sien, et s'il a réussi à être propagé à travers le monde, c'est grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux. À ceux qui accusent ces discours de simplicisme, parce qu'elle affirme que tout est noir ou blanc, dans la lutte contre le réchauffement climatique, elle leur réplique que la situation est bien sûr extrêmement complexe en raison des différentes causes du réchauffement climatique et des différents moyens d'y remédier, mais le choix à faire lui reste simple. Soit l'on met tout en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en dessous de 1,5 degré, soit on ne le fait pas et la situation dégénère. Il n'y a pas de troisième voie.
En tout cas, le message clair a été entendu par les jeunes du monde entier qui, à leur tour, s'engagent maintenant dans des actions concrètes.
Oui, une grève mondiale de l'école est prévue pour le 15 mars, journée durant laquelle sont déjà prévues plus de 40 mobilisations dans toute la France. La grève scolaire qui aura lieu tous les vendredis commence pour la première fois en France demain. Pour tous ces jeunes, il s'agit d'envoyer un message fort pour dénoncer l'inaction des adultes, supposément raisonnables, concernant le changement climatique. Les appels et les manifestes se multiplient. On peut citer par exemple Youth for Climate Friends, lancé par 10 lycéens de 10 villes françaises différentes, ou le manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui a rassemblé 300 écoles françaises, ou bien le manifeste de la jeunesse pour le climat, qui est le résultat d'une AG Interfac francilienne qui a réuni plus de 300 étudiants le 8 février dernier. Ces derniers donnent donc rendez-vous à tous les grévistes demain devant le ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, est-ce que la jeunesse peut encore sauver la planète ? Je ne sais pas. En tout cas, elle n'y a pas encore renoncé.
Merci beaucoup Mathilde pour cette petite note d'espoir. Il fallait attendre 21h11 dans cet amplifié pour avoir une bonne nouvelle. Mais enfin, la voilà. Et continuons avec une note d'espoir, cette sorte d'espoir qu'on appelle la radio. De retour du festival Longueur d'onde, je vous rapporte une découverte fantastique, une figure méconnue de la radio, voix fascinante et infatigable artisan du son.
Bonsoir.
Edith Lansac.
Gilbert Maurice Duprez.
Seulement derrière la vitre froide, le mouvement retenu du ciel.
De la nuit, c'est le titre de cette émission diffusée sur France Culture entre 1975 et 1977, dont on vient d'entendre un extrait, diffusée tous les soirs de semaine à 23h. Et qui alternait lecture, musique, entretien avec un certain nombre de voix anonymes qui s'enchaînaient à l'antenne pour cette émission si singulière dans le paysage radiophonique. Avec un travail formel sur les ambiances particulièrement recherchées, les bruits du lieu de l'enregistrement peuplent les émissions, la musique se fond avec les mots, tout contribue à créer du mystère, à commencer par les superpositions, les enchevêtrements de sons et de paroles rarement identifiés. C'est une véritable mise en scène de la parole à laquelle on assiste, l'irruption de fantômes dans la radio, comme cette femme que l'on entend le 22 septembre 1977.
Depuis 1973, je vis seule. J'ai bien écrit 30 000 lettres à cet homme, quelquefois des lettres gaies, pour lui dire que j'avais vu le ciel, que j'avais mangé une orange, que j'apprenais à vivre. D'autres fois des appels au secours, quand j'étais dans un bloc de réanimation, en le suppliant de venir me voir, en le suppliant de ne pas se quitter si mal, en le suppliant de comprendre 10 années qu'on a eues ensemble. S'il veut plus revivre avec moi, c'est son droit. Je comprends, j'accepte. Mais ce que j'accepte pas, c'est le refus de parler avec moi. Le refus de comprendre notre jeunesse. Car je sais pas, uni l'amour maintenant, mais l'amour a quand même existé. J'ai les preuves, j'ai les lettres qu'il m'a écrites, les lettres qu'il m'a obligé à brûler. Quand il est parti pour se sentir absolument libre. Mais il m'offrait des livres. Et sur les livres, je retrouve les dédicaces qu'il m'écrivait. C'est vieux, ça date de très longtemps.
donné à entendre une...
Je comprends pas ces fuites.
Donner à entendre une parole vivante, c'est l'une des obsessions de Gilbert Maurice Duprez dans cette émission, point d'orgue d'un parcours entamé comme réalisateur dans les années 60, et puis à France Culture donc, et puis poursuivi avec un certain nombre d'entretiens, de collaborations dans tout un tas d'émissions au cours des années 70, jusqu'à donc cette émission de la nuit. Et cet homme méconnu a été rappelé à notre mémoire en 2014 par Marie Guérin, un homme à la voix splendide comme on l'a entendu tout à l'heure, dont la voix s'est peu à peu détruite. On l'entend dans ce documentaire où il revient sur son parcours à la radio.
Qu'est-ce que vous avez appris à la radio ?
À vivre. À vivre. C'est inséparable de mon mode d'existence.
De votre mode d'existence ?
Oui. J'ai pas envie de dire. Oui, à vivre. C'est là que j'ai eu mes plus belles expériences,
mes plus grandes déceptions.
La radio. C'est un fil continu de vie.
C'est un fil continu, le flux.
Oui.
C'était un acte militant de faire de la radio ?
Oui et non. La vie est un acte militant. On prend position.
On fait ou pas une collection de 500 sons dans les années 80 ?
Exactement. Et on témoigne de sa vie, donc de la vie des autres.
Donc de la vie des autres.
La seule affaire de la vie, c'est de témoigner de la vie.
Seul intérêt de la vie, c'est de témoigner de la vie.
Témoigner de la vie, inlassablement, c'est ce que Duprez aura fait en ouvrant son micro à la parole pour elle-même, pour se quasi-toucher entre une voix et l'oreille d'un auditeur, mais également en collectionnant tout au long de sa carrière une époustouflante panoplie de sons, de chutes, d'autres émissions d'ambiance, diffusée ensuite de 1980 à 1984, tous les jours à 14h, sous le titre limpide de son.
On y trouve l'inquiétude des professeurs au moment du conseil de discipline.
Il y a des choses à dire de tous les côtés. Il n'a pas dit n'importe quoi après avoir reçu les projectiles. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des choses avant les projectiles aussi. Hein. Non, mais je crois qu'il faut le dire aussi un peu. Les gens avec un mépris, enfin quand même inacceptable.
La force de l'exemple.
Bruno Petrain, 5 minutes de jeu maintenant, 0-0 entre l'Autriche et la France. Kraus pour ce deuxième tour de la Coupe du Monde, premier match.
Un tournage de Carmen.
Il ne peut pas reculer.
Dans ces sons, Duprez revendique un dénombrement du monde, un corps à corps avec la vie dont la radio permettrait de garder trace. Une trace qui n'est plus faite de paroles, mais continue à s'adresser directement, intimement à l'auditeur. Ces sons sont un don, et la générosité absolue du travail de Duprez est résumée en une boutade magnifique.
Et vous pouvez me donner un fil de lecture de vos 500 sons, là, parce que moi, je ne sais pas comment les choisir, je ne sais pas comment les...
Ben, c'est votre responsabilité, ça. Mais alors, je fais l'émission et vous me foutez votre cachet.
Filez-moi votre cachet, alors, sinon.
C'est votre vision de la chose.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
À 21h passée de 19 minutes, il est l'heure de votre chronique musicienne. Maë et Benoît, bonsoir.
Bonsoir. Alors, qu'est-ce que 12 flûtes traversières qui jouent la même note ?
Une gamme chromatique.
je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce soir est le soir de la Saint-Valentin et pour fêter ça en beauté, on va vous parler d'un couple heureux, la musique.
Et le cul.
On vous a donc sélectionné des morceaux aux petits oignons, la fine fleur de la musique.
Et parce que nous sommes de petits boutons de train, nous vous demanderons d'être très attentifs et de décider à la fin quelle sera votre musique préférée.
C'est parti pour le premier morceau, Benoît.
Love on the Beat, un titre évocateur, non. Toute la poésie déglinguée d'un Gainsbourg en période Gainsbar. Premier titre du dernier album de sa vie, qui est aussi le plus controversé, comprenant entre autres références limite incestueuse Lemon Incest, chantée avec la jeune Charlotte alors âgée de 13 ans. Autant dire que le bonhomme avait franchi le cap du bon goût depuis un moment. Cela dit, l'album Se laisse écouter donnera lieu à de belles pépites. Et puis j'ai toujours eu un faible pour ce Gainsbar cru et border de fin de vie, beaucoup moins classique que ses débuts de jazzouille café bobo parisien. Des débuts, un Gainsbourg wild, désabusé, n'ayant plus rien à prouver et se permettant d'expérimenter.
Je pense à toi en tant que cible, ma belle enfant, écartelée. Là, j'ai touché le point sensible. Attends, je vais m'y attarder.
À ton tour, Maï.
Alors moi, je suis allée fouiller dans les années 80 chez nos amis les Suisses pour faire plaisir à Rémi. Électro des années 80, voix grave et suave, ça vous parle ? J'ai nommé Yellow. Et pour être dans le thème, j'ai nommé le titre Desire. Absolument chaque détail de cette chanson est mémorable. La mélodique épique, la basse poussive, les synthés pleins d'écho et la voix de Dieter Meyer qui ferait rougir la plus blasée des amantes. Tout ça sans parler des paroles. The streets, I know. Are naked in the morning light. The streets are naked in the morning sun. The night is behind me. I run and run.
Ensuite, les Guns N' Roses ne sont pas du genre à faire les choses à moitié, et quand une chanson paraît trop vide aux yeux du chanteur Axl Rose, ils n'hésitent pas à sortir le grand jeu. En 86, alors en plein enregistrement de leur premier opus Appetite for Destruction, qui restera dans les mémoires comme l'un, sinon le meilleur album de hard de l'histoire, que notre bon Axl trouve qu'il manque quelque chose à la chanson de clôture de l'album, Rocket Queen. Qu'à cela ne tienne, pourquoi ne pas rajouter un peu de piment au solo, en y glissant plus ou moins subtilement des enregistrements débats sexuels ? Rien que ça, c'est rock'n'roll. Mais attendez, parce qu'il y a encore la manière d'enregistrer.
À l'ancienne ?
Exactement, brute de pomme, dans le studio, sous le regard gêné de l'ingé son. Rock'n'roll puissance 2. Mais wait for it, la fille en question n'était pas n'importe laquelle, il s'agissait de la copine du batteur du groupe, qui fut donc enregistrée durant ses ébats.
Avec le chanteur ?
Gagné. Et puis tant qu'on y est, je peux aussi ajouter que l'ingé son qui refusait de prendre part à l'enregistrement a tout délégué à son assistant, qui paraît-il a eu besoin de replacer le micro à de multiples reprises pendant leur petite affaire.
Je terminerai avec la bonne vieille chanson française, les airs roulés, tout ça, avec la voix coquine de Colette Renard. Les nuits d'une demoiselle, ça vous parle ? Sorti en 1968, le titre est sans doute le plus connu de la chanteuse. Il est né à l'occasion d'un album consacré aux chansons paillardes et énumère joyeusement toutes les expressions argotiques pour les rapports sexuels. Je vous laisse écouter.
Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu.
Alors, time to choose, chère auditeurice.
Est-ce que vous préférez Love on the Beat?
Desire.
Desire. Rocket Queen.
Ou Les Nuits d'une Demoiselle?
Merci de crier votre réponse à la fin du décompte. 5, 4, 3, 2, 1.
Love on the Beat!
J'ai entendu.
Ouais, on a tout. Ouais.
Desire.
Ouais.
Merci beaucoup Maë et Benoît pour cette chronique musicienne pile dans le thème de ce direct. Et tout de suite on te retrouve Arthur pour une petite promenade certainement plus sage sur le chemin de l'école.
Bonsoir Rémi.
Et bonsoir Mathilde.
Et voilà, ce soir on va parler des stylos rouges. Aux armes, stylos rouges. Les enseignants sont en colère et veulent le faire savoir. Après le hashtag Pas de vague, un mouvement né en octobre 2018 pour dénoncer le manque de soutien de leur hiérarchie face aux violences scolaires à la suite de l'agression d'une professeure braquée en plein cours, voici les stylos rouges. Lancé mi-décembre par 6 enseignants sur Facebook, ce groupe a rapidement grossi pendant les vacances de Noël. Il a atteint plus de 60 000 membres. Ils ont récemment manifesté ce lundi 11 février devant l'Assemblée nationale contre le projet de loi « École de la confiance » de Jean-Michel Blanquer, mais les stylos rouges peinent toujours à se faire entendre. Si les stylos rouges revendiquent une continuité avec le phénomène « pas de vague », ils rappellent d'autres mécontents, les gilets jaunes. Un objet symbolique, une couleur et la spontanéité du terrain. Voilà ce qui rassemble les deux mouvements. Ils n'ont de proche que le nom, selon les fondateurs des stylos rouges, mais ceux-ci n'auraient sans doute pas vu le jour sans la crise des gilets jaunes. Le 10 décembre, c'est à ces derniers qu'Emmanuel Macron adresse ses annonces en faveur du pouvoir d'achat. Dans cette allocution télévisée, le président n'évoquera pas la condition des enseignants. Les stylos rouges naissent de cet oubli. On a voulu créer un groupe Facebook pour savoir si d'autres étaient aussi mécontents que nous, explique une professeure des écoles qui fait partie des 6 fondateurs. En quelques jours, on a été plus de 10 000. Mobilisés sur les réseaux sociaux, les stylos rouges ont lancé leurs premières actions. Les enseignants en colère ont manifesté devant les rectorats. Ils demandent notamment une revalorisation de leur salaire. Dans leur viseur, les promesses d'Emmanuel Macron sur la rémunération au mérite et le développement des heures supplémentaires. Autocollant des stylos rouges sur la poitrine, ces enseignants demandent une augmentation de leur rémunération via le dégel du point d'indice. Une piste qu'Emmanuel Macron avait déjà écartée pendant sa campagne, refusant, je cite, « une gestion uniforme du point d'indice dans la fonction publique ». Le point d'indice n'est pas l'alpha et l'oméga du pouvoir d'achat, a répété le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, assumant le développement d'une rémunération au mérite, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Rien de plus démotivant pour un fonctionnaire que de constater que, quel que soit son investissement personnel, il gagnera la même somme. Nous récompenserons davantage les équipes et les personnes par des rémunérations plus individualisées, pouvait-on lire dans le programme d'Emmanuel Macron. Une idée toujours d'actualité qui provoque l'ire des stylos rouges. Le ministère veut instaurer un salaire de base faible, avec des primes que nous toucherions en fonction de notre investissement, craint Grégory, jeune professeur de mathématiques à Brest. Est-ce que ça veut dire que tous nos élèves doivent être en réussite? Dans ce cas, tous les profs vont dire que tout va bien dans leur classe et mettre 20 sur 20 à tout le monde, ironise Sarah lors d'une interview donnée à Libération. Cette professeure des écoles à Mulhouse s'interroge. Comment on quantifie le mérite? On ne part pas avec le même travail à accomplir. Ce serait bien qu'on ne crée pas des différences salariales à partir de cela, ajoute Florian, professeur de français dans un lycée près de Lille.
Mais la prime REP n'est-elle pas en partie attribuée au mérite?
Ben oui, un exemple concret d'une rémunération au mérite pourrait concerner les enseignants en REP+. Le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à mettre en place une prime annuelle de 3 000 euros net en leur faveur. Une mesure censée répondre à l'impossibilité de recruter des enseignants dans les territoires où la difficulté sociale et scolaire se concentre, mais d'après les chiffres du ministère, plus de 41 000 enseignants sont concernés. Un premier versement de 1 000 euros a été effectué à la rentrée, mais tous les professeurs en Ré+ pourraient ne pas toucher 3 000 euros. Il y aurait une part fixe et une part variable, évidemment liée au mérite, explique le porte-parole d'un syndicat enseignant. Une part variable qui n'apparaissait pas dans le programme du chef de l'État. C'est en juillet 2018 que le ministère de l'Éducation a avancé qu'une partie de la prime pourrait être versée après examen de critères tels que les progrès des élèves et l'accomplissement du projet d'école et d'établissement. Les critères doivent être clairement définis, sinon c'est la porte ouverte à toutes les injustices, avertit Anne Catelas, secrétaire fédérale de la CFDT à l'éducation. Alors, dans l'Académie de Lille, près de 40% des écoliers et collégiens étudient dans les établissements Ré+, selon les chiffres du rectorat. Cette prime, c'est bien pour les collèges en Ré+, mais il y a aussi des difficultés dans les autres établissements, estime un professeur de français dans un collège du Pas-de-Calais. Donc tout le monde ne va pas bénéficier de cette prime, notamment les assistants pédagogiques ou les accompagnants d'élèves en situation de handicap.
Les heures supplémentaires annoncées par Jean-Michel Blanquer ne sont-elles pas un coup de pouce au pouvoir d'achat des professeurs ?
Sans doute, mais il y a des effets pervers. Le 10 décembre, Emmanuel Macron a annoncé leur défiscalisation. Pendant sa campagne, il avait promis de rétablir les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. En réponse à la crise des Gilets jaunes, il est allé plus loin en rétablissant leur défiscalisation en vigueur durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Cela entraîne la sortie des heures supplémentaires du calcul de l'impôt sur le revenu, au-delà de l'exonération des cotisations salariales sur ces heures. Dans le premier degré, certains professeurs des écoles peuvent faire quelques heures supplémentaires, en surveillant les repas à la cantine par exemple, les stages de remise à niveau des écoliers, autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui offre également des possibilités d'heures supplémentaires. Mais cela ne concerne qu'une poignée d'enseignants. Dans le secondaire, les enseignants peuvent faire des heures supplémentaires en encadrant les études dirigées après la classe et le ministère de l'Éducation vient de rendre obligatoire une deuxième heure supplémentaire pour la rentrée 2019. Alors c'est une mauvaise nouvelle pour Guillaume qui est professeur d'espagnol et qui voit une façon de ne pas augmenter les effectifs. On a de plus en plus recours aux heures supplémentaires partout au lieu d'embaucher, déplore le jeune homme. Plus on en fait, plus nous avons de classes et donc d'élèves. Nous sommes moins à même de nous adapter au cas de chaque élève, regrette Florian. Les stylos rouges se sont organisés sans les syndicats, mais plusieurs enseignants appellent ces derniers à les rejoindre. Ils auront besoin de tout l'effort disponible pour faire bouger le ministère, analyse Patrick Désiré de la CGT Éducation. Aujourd'hui, les manifestations des stylos rouges sont isolées et peu coordonnées. Il faudrait un mouvement général de contestation pour rendre audible le malaise enseignant. Un refus massif de la correction du baccalauréat, par exemple, pourrait faire bouger les lignes, car le stylo rouge reste la dernière arme du corps enseignant.
Merci Arthur. Et c'était le journal radiophonique amplifié avec cette semaine Maë Burla, Arthur Kramer, Benoît Auclair, Marie Dugnac, Maxime Seguin, Arthur Guérin-Turc. En régie, il y avait Félix Barancy, Thomas Brunel et Occitane Lacurie. Nous remercions également ENS Média pour son soutien technique. Le journal radiophonique amplifié, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et Rémi Cerda. Je vous donne rendez-vous le 28 février pour le prochain JRA.
Et maintenant, on passe tout de suite à notre émission de cinéma d'Étoiles plein les yeux.